France Musique. Grand large, Benjamin François.
Bonjour à tous, nous partons dans un instant et pour une semaine dans une nouvelle série Grand Large, dans la Rome du XVIIe siècle, une des trois grandes capitales musicales, avec Venise et Naples, d'une Italie qui est encore loin de connaître son unité politique. Cette Rome du Seicento va nous permettre d'aller à la rencontre d'une belle unité stylistique qui s'épanouit dans les arts et la musique. À partir de demain, nous évoquerons les premiers opéras baroques qui firent leur apparition dans quelques grandes dynasties, des fêtes somptueuses qu'organisaient les cardinaux Pamphili ou Ottoboni, les reines Christine de Suède et Marie-Casimir de Pologne, toutes deux en exil à Rome. Des grands musiciens comme Corelli, qui expérimenta d'une si belle manière le concerto instrumental, jusqu'à l'arrivée en 1707, ce sera pour notre cinquième épisode, d'un jeune Saxon répondant au nom de Georg Friedrich Händel, qui produisit à Rome ses premiers chefs-d'œuvre. Mais commençons par le commencement et reprenons le fil de l'histoire quelques dizaines d'années avant l'apparition de ce que nous appelons aujourd'hui le baroque. À la différence de la République de Venise qui s'enivrait de fêtes pour ne pas penser que son heure de gloire était déjà derrière elle, et contrairement à Naples, à l'époque le plus grand royaume de la péninsule, qui avait été en permanence sous la domination étrangère et allait connaître son indépendance en 1734 grâce à Charles de Bourbon, Rome, parce qu'elle était à la fois la capitale du monde chrétien et des états pontificaux, la deuxième entité politique de la péninsule, peut paraître être plus sage que ses deux consoeurs. Elle n'en était pas moins une des étapes incontournables du Grand Tour, ce voyage initiatique indispensable à toute éducation artistique. Comme presque tous les voyageurs des XVIIe et XVIIIe siècles, nous entrons dans Rome côté nord par cette majestueuse place du peuple qui étonnait tous ceux qui la franchissaient, la porte Flaminia y menant, et admirons déjà le dôme radieux de Saint-Pierre vers lequel tout semble converger. Les deux églises jumelles de Santa Maria in Monte Santo et de Santa Maria dei Miracoli n'y seront érigées qu'à la fin des années 1670. Mais ce qui frappe le visiteur du début du XVIIe siècle, c'est cette beauté immédiatement perceptible, avec au centre de la place l'obélisque égyptien placé par Sixte V, débouchant sur la Via del Corso, parfaite pour les courses équestres qui s'y tiennent. De là, si les pèlerins, le visiteur au terme d'un périple de 1700 km, comparable au chemin de Saint-Jacques de Compostelle, ne passe pas le Tibre, mais file directement vers Saint-Pierre. S'il fait le grand tour, libre à lui de flâner sur quelques belles places, de se perdre dans les ruelles tortueuses dans cette ville où l'eau est sur toutes les places et dans presque toutes les maisons, ce qui permet de se désaltérer en toute saison. Les papes Sixte V et Paul V, et même Urbain VIII, nourrissaient de solides ambitions en matière architecturale, même s'ils avaient pour déplorable habitude de nommer leurs neveux cardinaux, leur assurant pouvoir et richesse, contribuant à faire de la ville éternelle la capitale du monde. Une capitale régulièrement entretenue à chaque génération, mobilisant d'importants moyens financiers pour faire honneur aux années saintes. Au cours de sa brillante et glorieuse histoire, Rome, plus que toute autre ville, avait vécu les hauts et les bas de la vie humaine, politique, économique et culturelle. L'accroissement du pouvoir de la papauté à partir du IXe siècle avait permis la nouvelle expansion de la ville après les désordres des siècles précédents. Mais l'exil des papes en Avignon au XIVe siècle, ainsi que les épidémies de peste de 1348-1350 ou 1656, lui avaient porté un rude coup. Rome mettra du temps à s'en remettre et retrouver un dynamisme dans sa population. Mais à l'aube du XVe siècle, la ville connaissait un nouvel essor économique et culturel puissant, particulièrement soutenu par les papes de la Renaissance. Sous le règne de ces pontifes, Rome concentra les forces créatrices sur l'architecture, la peinture et la sculpture. Alberti, Bramante, Raphaël, Michel-Ange et bien d'autres transformèrent le visage de la ville, forte d'environ 80 000 habitants, ce qui est peu par rapport aux millions d'habitants de la Rome d'Auguste. Le centre de la ville est essentiellement constitué par la basilique Saint-Pierre, consacrée et ouverte au culte en 1626, et qui dépasse de 3 fois en superficie Sainte-Sophie à Constantinople. Le voyageur fraîchement débarqué est d'autant plus frappé par la beauté de Rome qu'il a traversé auparavant des terres papales quasi désertes et peu cultivées. Charles de Brosse déplorera en 1739 cette quantité prodigieuse et continue de petites collines stériles, incultes, absolument désertes, tristes et horribles au dernier point. Quand Montesquieu remarque qu'il n'a vu seulement 10 arpents de bien entretenus. Après la monotonie, voici une ville noblement bâtie, aux rues, à l'architecture organisée, comme le note Robert de Cotte. Cette entrée donne une belle idée de cette ville, aux rues parfaitement belles, grâce aux montagnes ou buttes qui font des hauteurs et des bas, une variété qui fait plaisir à voir. Mais cette splendeur, admirée par les visiteurs, ne doit pas occulter les points à améliorer, comme l'air malsain qui règne dans son dédale de rue, la puanteur qui se dégage du Tibre, un méchant petit torrent jaune, comme le note Charles de Brosse, que la ville continue d'ignorer. Ses rives jonchées d'ordures frappent par leur état d'abandon, et ce n'est pas un hasard si on y a installé les quartiers juifs et populaires, comme le Trastevere. Et quand un pape propose de border le Tibre de quais en bonne et due forme, on s'empresse de réaffecter la subvention à de nouvelles décorations pour Saint-Jean de Latran. Cette grande basilique romaine a eu en 1553 comme maître de chapelle Roland de Lassus, un poste prestigieux pour un jeune homme de 21 ans, mais il n'y restera qu'un an et c'est l'Italien Palestrina, encore un grand musicien, qui lui succédera en 1555. Thank you. L'église de Rome a eu une histoire longue et mouvementée, la plus célèbre avec les grands schismes de la fin du Moyen-Âge, la séparation définitive des chrétiens d'Orient et d'Occident après de nombreux siècles de disputes par le rejet du concile de Florence en 1472 et celle précipitée par Urbain VI, élu en 1378, résultant de la dualité des papautés d'Avignon et de Rome, résolue en 1417 en faveur de cette dernière ville qui fut propulsée au premier rang du mécénat des arts, peinture, musique et architecture, doublée d'un pouvoir politique d'une influence considérable. Ceux d'entre vous qui sont déjà allés à Rome n'ont pas manqué d'aller admirer la chapelle Sixtine, construite justement par le pape Sixte IV. Ces décorations attirent les visiteurs du monde entier, notamment les sublimes fresques de Michel-Ange, achevées en 1512. Tout aussi magnifique, mais peut-être plus éphémère, était la musique écrite au siècle et demi suivant et chantée par le chœur papal dans ses murs. On dénombre 24 chanteurs réguliers au sein de l'ensemble, recrutés sur audition. La vie et la carrière de Palestrina à Rome coïncident largement avec le Concile de Trente et la Contre-Réforme. À Rome, il fut aussi le premier Italien à publier un volume de messes en 1554. Elles sont dédiées à Julius II, l'ancien évêque de la ville de Palestrina, avant qu'il ne soit élu pape. C'est lui qui a nommé son protégé comme chanteur dans le chœur papal, malgré son mariage, un acte apparemment anodin qui fut fatal au musicien une fois son protecteur disparu. Tous les instruments sont exclus de la chapelle, même l'orgue. Suite aux décisions du Concile de Trente, la chapelle Sixtine devient l'endroit où les nouvelles obligations en matière de musique sacrée sont respectées à la lettre, servant de modèle absolu à la chrétienté. Le Concile a recommandé une écriture simple, où les textes sont facilement compréhensibles et d'où les ornements et mélismes trop nombreux sont exclus. De plus, le Concile prohibe tous les thèmes profanes, comme l'homme armé. C'est Palestrina qui respecte le mieux la nouvelle doxa. Toute sa formation l'a préparé à devenir le premier compositeur de la chrétienté de l'époque. Il a effectué sa formation à la basilique Sainte-Marie-Majeure, a été actif dans d'autres églises romaines ou au service de grands prélats et cardinaux. Et en 1571, c'est la consécration, il devient le maître de la chapelle pontificale. Mais sa réputation grandit encore quand il est choisi avec Lassus et Ruffo pour écrire des messes dans le nouveau style rigoureux exigé par le Concile. Cependant, n'exagérons pas le poids des nouvelles règles dans la production de Palestrina, dont le corpus monumental comporte plus de 100 messes, plus de 1000 motets, des lamentations, psaumes, hymnes, et s'étale sur toute sa vie. quid de la musique instrumentale dans la Rome du crépuscule de la Renaissance? Dès 1550, bon nombre d'instruments de musique que nous connaissons aujourd'hui, violon, alto, viol de gambe, luth, flûte à bec, cornet, sacbout, orgue, clavecin, existaient déjà et s'étaient grandement perfectionnés, si bien qu'ils inspirent une extraordinaire virtuosité à ces mêmes compositeurs à cheval entre la Renaissance et le Baroque, qui étaient non seulement de remarquables interprètes, mais aussi d'envoûtants improvisateurs de musique instrumentale à un niveau de raffinement jamais atteint auparavant. C'est ce contexte artistique général de la fin de la transition menant de la Renaissance au Baroque qui a permis à l'ornement de passer dans tous les arts, pas seulement en musique, mais aussi en architecture, sculpture, peinture, argenterie, bijouterie, que sais-je, d'une fonction décorative à un rôle principal. Ces diminutions virtuoses, mais totalement naturelles, pouvaient être accompagnées par un instrument à cordes pincées, comme le clavecin, la harpe ou le luth, par l'orgue aussi, ou un consort d'instruments mélodiques comme les viols ou les flûtes à bec. L'instrument soliste joue la voix ornée et l'accompagnement fournit la basse sur la chanson ou le madrigal. Comme en architecture, on a un peu l'impression d'assister à la création d'une nouvelle façade sur un vieux bâtiment, avec l'ajout d'éléments nouveaux sur une base ancienne. Une tradition de la diminution telle qu'elle se pratiquait au milieu du XVIe siècle à Rome et ailleurs, qui marque probablement la naissance de la virtuosité.
Thank you.
Notés dans des manuscrits souvent richement décorés et parfois imprimés, conservés dans la bibliothèque du chœur jusqu'à nos jours, le répertoire du chœur de la chapelle Sixtine a considérablement changé de style tout au long du XVIe siècle. Dominé d'abord par les compositeurs franco-flamands, son répertoire bascule plus tard en faveur des Italiens, notamment lorsque la contre-réforme se renforce après le Concile de Trente. Un tel modèle était également évident dans la composition nationale des chanteurs du chœur, bien qu'il y ait eu un équilibre plus égal dans les premières années. Depuis la fin du XVe siècle, les membres du chœur provenaient de trois origines, les franco-flamands, les italiens et les espagnols, comme Cristóbal de Morales. Avec l'avènement d'Alexandre VI, en 1492, la nation espagnole constitua le premier groupe et en 1512, on dénombrait 9 Espagnols. En revanche, une centaine d'années plus tard, le personnel était presque exclusivement italien. Le Liber Missarum d'Arcangelo Crivelli répertorie les 31 chanteurs. Parmi eux se trouvent 3 Espagnols, un autre est français. Les autres semblent être italiens et principalement romains, quoiqu'un autre membre soit napolitain, un autre de Bergame et un troisième de Pérouse. À côté de Palestrina, surnommé ainsi à cause du patronyme de sa ville natale, la musique d'un autre compositeur italien est bien représentée dans les archives papales, Costanzo Festa. Comme son contemporain Cristóbal de Morales, il était chanteur dans le chœur de la chapelle Sixtine. Festa en devint membre en 1517 et le quitta par la force des choses en 1545, année de sa mort. Après le Concile de Trente, les compositeurs durent simplifier leur style de manière à rendre les textes plus intelligibles. Comme il était impossible de tout recommencer à zéro, Palestrina et ses plus jeunes associés ont donc procédé à la réécriture d'une grande partie du répertoire avec les textes révisés du Concile de Trente, d'une manière plus transparente et plus textuelle. Également adaptés aux nouveaux besoins de la liturgie révisée, ces textes à double cœur épousent le nouveau style déclamatoire, privilégiant la projection intelligible du texte.
Thank you.
Les premiers dans la composition de cette nouvelle musique étaient l'Espagnol Tomás Luis de Victoria et Palestrina lui-même, ainsi qu'une foule de jeunes compositeurs, principalement italiens, romains, tels que les frères Nanino et Anerio. Le frère aîné d'Anerio, Felice, né en 1560, a commencé sa carrière d'une manière très classique, la voix royale, en tant qu'enfant de chœur à Sainte-Marie Majeure, sous Giovanni Maria Nanino. Et il a chanté sous Palestrina dans la Cappella Giulia. Il s'est illustré dans tous les genres des compositeurs de cette époque, des madrigaux à la fois profanes et sacrés, et de la musique pour la liturgie. Mais la grande réussite de sa vie a été sa nomination en tant que compositeur papal officiel, le 3 avril 1594, à la mort de Palestrina. Le motet pour double chœur a cappella Tibi Laus, Tibi Gloria combine toutes les multiples facettes de son art. Une belle polyphonie fluide, mélangée à des passages plus verticaux, une vitalité rythmique comprenant des passages binaires et ternaires, et inversement, une variation de la densité de la partition, le tout en accord avec une présentation claire, toujours claire, du texte. Voici un autre compositeur romain à la charnière entre la Renaissance et le Baroque, célèbre pour son fameux Miserere, Gregorio Allegri. Comme plusieurs de ses frères, il avait appris la musique auprès du maître de chapelle de Saint-Louis des Français, Giovanni Bernardino Nanino. Après avoir été chantre dans cette église, il devient prêtre, maître de chapelle à la cathédrale de Fermo, avant d'être remarqué par le pape Urbain VIII qui l'engage dans le chœur de la chapelle Sixtine, position qu'il gardera de septembre 1629 à sa mort. les secrets d'ornementation de son miserere avaient été jalousement gardés par les chanteurs papaux jusqu'à l'époque de Mozart, qui les reconstitua sans peine grâce à sa mémoire auditive prodigieuse. Après sa mort, ses polyphonies ont continué à être inlassablement copiées dans les manuscrits de la chapelle Sixtine presque jusqu'au XIXe siècle, ce qui prouve l'estime dans laquelle ses compositeurs étaient tenus. Entre Allegri et Mozart, les historiens ont noté un certain déclin du niveau et de l'importance du chœur papal lui-même. Les falsettistes chantant la ligne de soprano ont été progressivement remplacés par des castrats, tandis que certains castrats, à l'insu de leur plein gré, furent obligés de chanter la partie d'alto trop basse pour leur tessiture. Ajoutons l'hémorragie des meilleures voix chantant les parties de soprano et d'alto, qui préféraient s'illustrer sur une scène d'opéra pour des gages bien plus alléchants, et vous obtenez les raisons d'un déclin qu'ont pu constater Mozart, puis Mendelssohn en 1831, où le chœur n'était plus que l'ombre de la grande institution de la Renaissance que nous avons évoquée aujourd'hui.
Thank you.
Sanctus Benedictus de Gregorio Allegri par The Sixteen de Harry Christophers. Tous les renseignements des musiques que nous avons entendues dans cette émission se trouvent sur la page du Grand Large. Fin de ce premier volet sur Rome entre la Renaissance et le Baroque. Merci à Annie Comier, Bernard Laniel et Catherine Prinlegal à la réalisation. Je vous dis à demain pour notre deuxième volet où il sera question des splendeurs artistiques dans les palais romains.
À réécouter sur francemusique.fr.